cet épisode a été enregistré le 23 mars 2011. Architect est un podcast sur les sujets d'architecture technique en français. Les épisodes sont disponibles en vidéo, mais également en audio. Le site de référence est architect.archims.fr. Vous y trouverez des ressources et la façon de vous y abonner, et puis également comment voir les webcasts sur Channel 9. Je suis Benjamin Guimbertière, architecte dans la division plateforme et écosystème de Microsoft.
Et je suis Thomas Conté, également architecte dans cette même division.
Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un ensemble d'épisodes architectes sur différentes disciplines d'architecture qui vont se retrouver sur le portail MSDN France. Et aujourd'hui, Thomas, tu vas nous parler de la discipline liée au portail d'entreprise.
Absolument.
Eh bien, allons-y.
Bonjour, donc deuxième épisode de la série consacrée aux disciplines d'architecture, effectivement. Donc même principe que l'épisode d'avant, c'est-à-dire que je vais aborder une discipline qui est le portail d'entreprise, vu par Microsoft évidemment. Je vais vous décrire un contenu qui est en cours d'élaboration et qui va se retrouver in fine sur un site web. Donc le contenu, vous aurez un URL de référence sur laquelle vous trouverez cette page qui va évoluer au fil du temps.
Et quelle est cette URL de référence ?
Quelle est cette URL ? C'est très simple, portail, comme un portail, .archims.fr. Donc c'est facile à se rappeler, comme on dirait. Donc à cet endroit-là, la page va vivre et vous trouverez, donc le but c'est d'avoir une référence, on va dire, technique autour de cette discipline qui est le portail d'entreprise. Je vous propose de balayer le contenu tel qu'il est. Alors encore une fois, c'est un contenu qui est en cours d'élaboration, sur lequel on est parfaitement preneur de propositions, de suggestions. Si vous avez vous-même du contenu de valeur, qu'il soit chez vous, chez ailleurs, sur l'Internet, à la limite en anglais, en français, ça a peu d'importance, même si on favorise évidemment les ressources en français. Donc voilà, c'est un contenu qui va s'enrichir.
Il faut que ce soit sur Internet quand même.
Oui, mais parce que si c'est sur le papier, collé sur un tableau blanc, ça c'est pas pratique.
Ah oui, ça craint.
Donc pour les suggestions, contacts, demandes d'informations, etc., c'est facile, c'est portail@archims.fr.
Ah oui. Ah oui. Il y a comme une similarité entre les deux.
C'est quand même simple. Hein.
Oui.
Donc là, ça arrivera chez quelqu'un qui pourra parler avec vous, donc probablement moi en l'occurrence.
D'accord.
Voilà. Donc, on va balayer un petit peu le document ou la page. Donc, le portail d'entreprise, c'est une discipline, on va dire, d'architecture à part entière, puisque le portail d'entreprise est devenu, on va dire, un point incontournable du système d'information depuis des années déjà. C'est une discipline qui est assez mature maintenant. Hein. Il y a eu une explosion, on va dire, il y a quelques années. Des produits, etc. Il y a une énorme consolidation et aujourd'hui c'est une discipline qui est bien maîtrisée, bien comprise. Le portail d'entreprise, c'est simple, son but primordial, le but d'origine, c'était d'offrir un point d'accès unique à l'ensemble des informations, processus de l'entreprise. D'accord ? Donc ça c'était la vision, elle n'a pas toujours été réalisée en pratique parce que c'est complexe. Et on peut d'ailleurs se reporter à l'épisode précédent sur BPM et intégration, puisque quelque part les deux sont fortement liés.
Hein. Ouais.
Le portail, c'est l'interface qui va permettre d'accéder à l'ensemble des processus, pas forcément de les exécuter évidemment, mais simplement d'y accéder. Alors ça peut être simplement un lien, ça peut être une application web qui permet d'interagir avec des services.
Donc la porte d'entrée du système d'information.
La porte d'entrée, exactement. Donc ça a été toujours le but d'origine. Et puis après, ces dernières années, donc une fois on va dire que les projets du type portail d'entreprise ont commencé à arriver à être finis, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'enjeux quand même annexes. Et ces dernières années, ça a été vraiment l'enrichissement du portail d'entreprise. Il y a eu d'abord l'apparition du moteur de recherche. Donc le moteur de recherche, comme je dirais, outil indispensable dans un portail, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un portail intranet si on n'a pas un moteur de recherche sophistiqué qui va avec.
Ouais.
On a vu toutes les problématiques d'interface utilisateur, d'utilisabilité, d'ergonomie qui ont été malheureusement assez négligées sur les premières générations de portails d'entreprise. Donc aujourd'hui, idem, un portail qui n'est pas simple à utiliser, qui n'est pas bien intégré dans l'environnement utilisateur, c'est pas quelque chose qui va avoir du succès, on va dire, dans l'entreprise. On a récemment...
Oui, si le portail ressemble à une porte de prison, c'est pas terrible.
Non, voilà, ça ne donne pas envie. Et puis après, les gens trouvent toujours un moyen de contourner le portail. Ensuite, on a eu récemment l'apparition des réseaux sociaux en entreprise. D'accord. Ils sont devenus un sujet qui a mis du temps à prendre en entreprise. Mais aujourd'hui, on a des gros déploiements en cours dans des grandes entreprises, des très grandes entreprises françaises. Des déploiements plus ou moins vastes, mais au minimum des milliers de personnes reliées par des techniques de réseaux sociaux d'entreprise. Et maintenant, là très récemment, l'apparition du besoin d'avoir un accès mobile au portail. Alors il y a toujours eu ça un petit peu, mais c'est soudainement devenu très très important récemment. Voilà. Donc avoir un accès en permanence à ce portail. Donc globalement, le cœur du portail d'entreprise, c'est les applications composites. Hein, c'est l'application composite. Donc ça revient à faire l'intégration, mais le portail et la coquille, la présentation, hein, finalement. Et puis autour de ça, on a l'ensemble de ces services annexes sans lesquels aujourd'hui on ne peut plus vraiment construire d'intranet. Voilà. Chez Microsoft, c'est très simple. L'ensemble du portail d'entreprise est constitué d'un produit qui s'appelle SharePoint, pour ne pas le nommer. Qu'on pourrait dire c'est presque plus qu'un produit, vraiment.
Ah,
j'en perds mes crayons. Ça, c'est le problème du web aujourd'hui.
Ouais, c'est que voilà.
Pas, quoi. Donc c'est plus qu'un produit, c'est une plateforme. Hein, c'est une plateforme SharePoint, donc c'est voilà, c'est pour ça que le portail c'est une discipline en soi. Chez Microsoft, contrairement à d'autres acteurs du marché, tout est intégré donc dans un produit, dans SharePoint. Là où assez souvent on a un catalogue finalement de produits plus ou moins intégré ou à intégrer, dans SharePoint, c'est vraiment un ensemble intégré. Donc d'accord. La première chose à faire, c'est d'explorer cet ensemble qui est du coup assez dense, comme on peut le voir avec ce petit schéma ici, qui est lui-même très dense. Donc,
d'accord, donc tu as fait un schéma synoptique.
Voilà, le schéma synoptique.
Alors, qu'on le voit dans...
Ouais, parce que
On n'a pas vu la page web complète.
Ouais, c'est important.
Donc voilà. Donc dans cette page web, on a notre schéma synoptique.
Donc on a plusieurs façons de présenter SharePoint et souvent il est présenté sous l'angle plus fonctionnel qui correspond en fait à cette barre ici. Hein, donc c'est-à-dire les fonctionnalités qu'on trouve dans SharePoint et on a une rosace hein, pour ceux qui connaissent bien. Donc j'ajouterai un peu de contenu hein, sur ces domaines, on va dire, sur ces fonctionnalités types, mais sachant qu'il y a énormément de contenu autour du fonctionnel. Donc le but, ça sera plutôt de donner des pointeurs, on va dire, et des choses un peu synthétiques sur le sujet. Après, ce qui est peut-être plus intéressant, on peut partir vers le bas, on peut partir vers le haut, au choix, hein, mais on va juste faire un petit tour en haut ici.
Alors.
Voilà, juste au-dessus, là. Ce qui est intéressant quand même au final, donc SharePoint est riche en fonctionnalités, on va dire, en standard, on peut les utiliser telles quelles, mais l'objectif du portail est généralement donc, de produire des applications pour l'entreprise. Donc des applications spécifiques ou alors des applications métiers que souvent on peut classifier de façon, alors tout ne rentre pas dedans, hein, mais il y en a des typiques, hein, des applications à base de documents, des applications donc d'intégration, des applications autour du reporting. Donc que ce soit des tableaux de bord, etc. Des applications autour du workflow, processus, workflow, etc. Et puis finalement, tout ce qui va être intranet au sens plus classique, intranet, page web, site web, etc. Et donc, voilà, SharePoint, on peut organiser, sélectionner les fonctionnalités et les assembler pour créer ces applications.
D'accord.
Donc ça, c'est la partie, on va dire, plus vers le fonctionnel. Et ensuite, ce qui va peut-être être plus intéressant, on va dire, d'un point de vue architecture applicative, hein, ça va être donc les services SharePoint, donc les services techniques qui sont disponibles également pour développer ces applications d'entreprise.
Donc qui sont accessibles via les outils pour l'assemblage ou via les API pour la programmation.
Voilà, exactement. Alors, on va regarder un petit peu après comment tout ça s'organise. Hein. Mais effectivement, l'idée, c'est que dans SharePoint, et c'est ce qu'on a ici sur le côté, on a plusieurs niveaux en fait, de paramétrage, d'assemblage, de customisation. On peut, avec son navigateur, on peut simplement paramétrer SharePoint. Et on va globalement assembler des briques toutes faites ici. Et on va pouvoir les réunir sur des pages, faire de la navigation, etc. On va pouvoir le customiser avec des éléments de la suite Office, hein, comme SharePoint
Designer,
comme SharePoint Workspace, etc. Et ensuite, on a SharePoint Designer, on rentre plus dans la conception de page, donc on rentre dans le HTML, on rentre dans les thèmes, les interfaces, etc. Et puis finalement, avec Visual Studio, on développe des applications avec du vrai code. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux, et globalement, avec le navigateur, on assemble des briques, et puis quand on développe, c'est généralement parce qu'on a besoin ou qu'on veut accéder à des services plus fondamentaux, de plus bas niveau, pour créer des applications plus riches ou autres. Donc après, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans cette partie, donc l'exploitation des fonctionnalités SharePoint. Avant, il y a quelque chose qui est important dans SharePoint, c'est cette partie, donc SharePoint et le cloud. Donc on le sait, tout va dans le cloud. SharePoint n'est pas une exception, c'est même un des premiers, après Exchange, un des premiers produits qui a été disponible sous forme de service. Hein. Donc on peut installer SharePoint Server 2010 chez soi, avec toute l'infrastructure qui va avec. Ou alors, on peut avoir un service SharePoint prêt à l'emploi qui s'appelle SharePoint Online. Donc d'un point de vue architecture, c'est intéressant parce qu'il y a un choix. Hein, ouais. On peut aller à demeure et à l'extérieur. Hors choix, hors contraintes réglementaires, sécurité, etc., qui sont importantes, il y a des différences techniques. Donc, même quand on est online, on peut développer des applications, mais les contraintes sont différentes. On peut faire moins de choses, hein, concrètement, dans le cloud. Donc, en 2010, on a un certain nombre de solutions qu'il est important de connaître, on va dire, pour être capable de faire ce choix online versus à demeure, ou bien de se dire, si je fais quelque chose de hybride, comment est-ce que j'organise, qu'est-ce que je peux mettre dans le cloud, qu'est-ce que je peux mettre chez moi, etc. Donc ce sont des critères qu'il faut comprendre parce que donc les outils qu'on peut utiliser comme les solutions Sandbox et le Client Object Model, etc. sont des choses qui nécessitent quand même déjà de rentrer un peu dans le détail pour bien comprendre ce qu'on peut faire.
En fait, les principes qui font que SharePoint Online ne fait pas forcément tout ce que fait un SharePoint à demeure, c'est le fait qu'on soit sur un environnement mutualisé.
C'est très simple, absolument.
C'est la colocation qui fait ça, non?
C'est la colocation, absolument. C'est-à-dire que donc, quand on parle application spécifique SharePoint, il y a des choses, on va dire, qui ne vont pas avoir d'impact sur l'environnement d'exécution, qui vont être une interface différente, une webpart qui présente des informations de façon plus pratique pour le métier, des choses comme ça. Et puis, il va y avoir des développements qui clairement impactent tout le monde dans un environnement mutualisé. Ça peut être des customisations qui vont changer le fonctionnement de base de SharePoint, ou bien qui consomment beaucoup de ressources, de la mémoire, du CPU ou autre. Donc clairement, ces choses-là, dans le cloud, on n'a pas trop envie d'y aller. Donc on a créé un modèle spécifique qui s'appelle le modèle Sandbox, qui permet finalement de développer des applications dans un cadre,
ouais,
limité en termes d'API qu'on peut appeler, et limité également en termes de consommation de ressources. Voilà. Donc il faut comprendre ça pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans la Sandbox et qu'est-ce qu'on ne peut pas y mettre.
D'accord.
Donc il y a une session.
Sachant que la sandbox existe aussi à demeure.
À demeure, bien sûr, oui. Donc, alors on a une session détaillée là-dessus sur les best practices de développement pour SharePoint Online qui aborde tous ces sujets-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans Online et puis effectivement quelles sont les bonnes pratiques. Donc comment est-ce qu'on fait pour déployer, pour concevoir une solution sandbox. On va effectivement la développer en local et ensuite on va la déployer dans Online puisqu'on a la sandbox des deux côtés. Donc voilà, session Tech Desk qui fait le tour du sujet. Donc, un autre sujet important pour cette partie online, mais qui est une discipline à part entière, c'est le concept de fédération d'identité. Puisqu'on vient de parler d'architecture hybride avec des bouts de portails dans le cloud, d'autres restés chez soi, voire même exploitant d'autres ressources dans le cloud comme sur du Windows Azure, voire même carrément en lien avec d'autres services cloud publics, du Yahoo, du Google ou autre. Pour tout ça, pour un déploiement en entreprise, il y a un point qui est critique, c'est maintenir l'identité de l'utilisateur pour sécuriser l'ensemble des données, etc.
La fédération d'identité est d'ailleurs une des disciplines qu'on va traiter, au même titre que BPM intégration au portail d'entreprise.
Exactement, donc on va avoir quelque chose de riche sur le sujet parce que c'est un sujet riche. Alors, cela dit spécifiquement sur SharePoint, donc il y a une session Tech Desk là aussi sur la fédération d'identité pour Office 365, qui est le nom commercial de SharePoint Online, enfin de la suite de services online. Donc ça, c'est intéressant, ça vous montre comment marche SharePoint Online aujourd'hui, on va dire avec de la synchronisation d'annuaire, et comment ils marchent demain ou très bientôt dans Office 365 avec de la fédération d'identité et ADFS. Donc session très intéressante sur le sujet.
Et qui aborde beaucoup Exchange, mais après on a les mêmes principes d'une façon générale dans Office 365, donc entre autres voilà. Dans SharePoint Online. Mm-hmm.
Voilà, ensuite, là il n'y a pas grand chose, mais je développerai l'aspect réseaux sociaux d'entreprise. Il n'y a pas vraiment un énorme enjeu technique, on va dire, derrière, mais il y a un certain nombre de choses, de retour d'expérience.
Problématiques.
Voilà, exactement, qui sont intéressantes là aussi, de projets qui se sont bien passés, etc. Ensuite, on a au niveau. Après, on rentre donc dans le développement SharePoint, parce que c'est un peu le but de l'opération, là, hein, c'est de savoir, d'un point de vue architecture technique, qu'est-ce qu'on peut faire avec SharePoint, comment on le fait. On a une sorte d'approche en trois phases. J'ai mon SharePoint, j'ai fait quelque chose avec. Maintenant, je veux l'intégrer dans le SI, qu'est-ce que je peux faire avec. Je peux le connecter ou m'y connecter. D'accord. Je peux l'étendre. Ou alors, je peux l'utiliser comme plateforme de développement, comme plateforme applicative. D'accord.
D'accord.
Donc, c'est un peu trois niveaux comme ça qu'on a trois principes, on va dire. Donc, le premier, se connecter, c'est de se dire, voilà, SharePoint expose des services, offre des services. Il y a du documentaire, il y a du workflow, il y a du reporting, il y a du collaboratif. Tout ça, je peux vouloir l'utiliser depuis le reste de mon SI. Un classique, c'est, on en a parlé dans l'épisode précédent, utiliser SharePoint comme entrepôt de tâches. On peut également l'utiliser comme entrepôt documentaire. Donc, je peux avoir une application CRM qui veut automatiquement stocker quelque part un document de référence ou un document reçu. On note les problématiques de dématérialisation. Donc, dans le processus de l'entreprise, je reçois une demande client, je la dématérialise, je dois stocker le PDF, etc. quelque part. Tout ça, SharePoint peut le faire. D'accord ? Mais comment est-ce qu'on le fait depuis le reste du SI ? Donc on a un sujet qui est comment j'accède au service SharePoint. Et donc on a une série de possibilités. On a des web services SOAP, donc interopérables depuis des technos Java notamment, principalement même je dirais. On a le Manage Client Object Model qui est utilisable par tout client .NET ou JavaScript. Donc on est plus dans un scénario application riche, mais rien n'empêche d'utiliser ça pour faire de l'intégration. Alors, pas trop JavaScript, mais .NET. On a donc des interfaces REST au data qui sont là aussi interopérables, même si elles sont un peu plus limitées fonctionnellement. Enfin voilà, on peut faire un peu moins de choses qu'avec l'interface SOAP, mais par contre, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger. Bon, on va pas rentrer dans le débat REST SOAP, mais rapidement, plus léger, plus rapide, plus simple et tout aussi interopérable. Donc, avec notamment une interface au data intégrée et puis la possibilité. Donc c'était un peu le cas avant, hein, mais en 2010 c'est vraiment possible, on va dire, d'avoir des services WCF spécifiques, donc exposer des fonctionnalités d'un peu plus haut niveau que celles exposées par SharePoint nativement, et donc quelque chose qui soit plus orienté métier et qui après derrière coordonne plusieurs services SharePoint. Donc tout ça c'est se connecter à SharePoint. Alors après il y a un autre sujet qui est, on va dire, l'intégration, donc dans l'autre sens SharePoint se connecte vers l'extérieur, hein. Ensuite, deuxième niveau, c'est j'étends SharePoint. D'accord.
Donc après se connecter à SharePoint.
Voilà, se connecter, deuxième thème, on va dire, voilà, j'étends SharePoint.
Étendre SharePoint, d'accord.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez incontournable, hein, aussi, même si bon, pas mal de gens utilisent SharePoint avec très peu de customisation, c'est vrai, hein, mais assez rapidement, notamment sur les développements d'applications, on a besoin de rajouter des choses. Donc là, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'interface graphique, hein, bon, classique. J'ai besoin de customiser les écrans SharePoint, les pages SharePoint, rajouter des menus, enlever des menus. Alors là, le sujet est riche, hein, parce que dans SharePoint 2010, on a donc le ruban maintenant. Le ruban, c'est bien, parce que en termes d'ergonomie utilisateur, c'est pratique, c'est comme dans Office, c'est simple à utiliser, ça permet de découvrir les fonctionnalités plus facilement. Par contre, souvent, on veut le customiser, quoi, on veut cacher des choses, etc. Donc il y a un sujet autour de ça, hein, de l'interface. Après, classiquement, il y a les thèmes, la charte graphique, etc. Dans un portail, c'est évidemment classique.
On retrouve des implémentations de SharePoint où on ne reconnaît carrément pas SharePoint. Quoi.
Enfin, oui, c'est... on en trouve.
Il est carrément masqué complètement. Il y a ces fonctionnalités qui sont là, mais en niveau interface graphique, ça n'a plus rien à voir avec le SharePoint sorti de boîte.
Absolument. Alors, c'est vrai que c'est également plus facile en SharePoint 2010 que ça ne l'était avant. Donc, c'est un sujet intéressant à creuser. Si vous pensez que SharePoint est absolument impossible à personnaliser, c'est plus le cas en 2010, hein, c'est clair. Ensuite, bon, le cœur là-dedans, c'est le développement de WebPart, hein, puisque donc, SharePoint, ça se développe avec des WebPart. Donc, ce sont les bouts de fonctionnalités. Donc, en Java, dans le monde Java, ça sort les portlets. Chez nous, c'est les WebPart. Le principe est le même. J'ai une petite application qui fait du HTML et qui est dans une boîte que je peux déplacer, fermer.
C'est des bouts de portail.
C'est des bouts de portail. Donc ça c'est la base, c'est le cœur, c'est tellement basique que c'est descendu dans le framework .NET de toute façon depuis un petit moment, hein, mais
ouais.
Bien sûr c'est le...
Depuis ASP.NET 2 je crois.
Exactement, ouais. Ouais. C'est la base. Ensuite, deuxième niveau qui se... voilà, qui est assez incontournable aussi, c'est l'ajout de données métiers spécifiques, d'accord. Donc là le but c'est pas nécessairement, on va pas remodéliser dans SharePoint des entités métiers qui existent déjà ailleurs. Ça c'est une anti-pattern on va dire, hein. Donc on va pas essayer de refaire un CRM dans SharePoint ou etc. Par contre en liaison avec les autres briques du SI, on a des choses, on a besoin peut-être de formulaires pour saisir des choses, on a besoin peut-être de listes de références ou autres, on a certainement besoin de types de contenus, de types de documents, donc des documents avec des métadonnées, des documents avec des plans de classement, des choses comme ça, puisque SharePoint est quand même très utilisé en gestion documentaire. Et donc ça nécessite parfois d'avoir des types de documents un peu complexes. Je peux avoir des types de documents composites, hein, donc par exemple un dossier client ou une réclamation client, c'est peut-être constitué de deux lettres, deux courriers entrants, un courrier sortant, etc. Donc, j'ai peut-être plusieurs documents comme ça qui sont réunis. Donc voilà, on a un besoin d'aller modéliser des entités métiers dans SharePoint pour ce qu'il sait faire. Et puis la dernière partie de l'extension, on va dire, c'est la définition de processus et de logique métier, là aussi relativement incontournable. Alors,
les workflows... personnalisation des interfaces graphiques et ajout de données métiers spécifiques.
On a les processus assez classiquement hein, qui s'exécutent sur ces entités ou sur ces données métiers en question. Donc les workflows, c'est la base, sachant que le workflow, voilà, il y a plusieurs workflows, on ne parle pas là de workflow d'intégration, d'orchestration, etc. On parle généralement de workflow documentaire ou de workflow qui s'applique vraiment spécifiquement aux entités métiers qui sont dans SharePoint.
Le cas typique, c'est une validation de documents.
Documents, une relecture, des choses comme ça. Alors on peut faire, cela dit, des choses sophistiquées, hein. Mais encore une fois, le cadre SharePoint, c'est le workflow qui s'applique à un objet qui est dans SharePoint, qui est vraiment dans SharePoint. D'accord. Parce qu'après, quelque part, quand j'ai un processus métier qui manipule ou... qui englobe plusieurs entités métiers qui sont dans le CRM, dans l'ERP, etc., et dans le portail, et dans la GED, on est plus sur un workflow d'intégration. Je vais peut-être y accéder via SharePoint, c'est possible, hein, mais derrière, ce ne sera pas les mêmes mécanismes.
Les deux sont complémentaires, d'ailleurs. On peut très bien avoir un processus d'entreprise qui, à un moment, a besoin de faire valider un document à un groupe, absolument. Et qu'ensuite, cette validation de document, dans le détail, soit gérée par le workflow dans le portail. Qui lui-même va se charger d'aller envoyer la validation à telle personne, et si elle n'est pas là, si elle est en vacances, l'envoyer à quelqu'un d'autre, etc.
Exactement. Donc c'est plutôt le workflow humain, voilà, workflow humain qui est dans SharePoint en grande partie. Voilà, autour de ça, on a effectivement les validations, puis on peut avoir des événements, hein, donc on peut avoir une notion événementielle dans du workflow qui se déclenche sur un événement, une création de documents, une destruction de documents, on a une notion d'archivage, etc. Donc, c'est assez riche.
Souvent, le workflow, enfin, les événements et les workflows sont un moyen de déclencher du code sur l'arrivée de documents dans SharePoint.
Sur un document entrant, par exemple, des choses comme ça. Donc, voilà, tout ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc, après, là, le but, ça sera d'essayer de comprendre les points d'extension, comment les utiliser, puis avoir après des liens sur les bonnes documentations. Tout ça, il y a une documentation MSDN qui est très riche. Donc, le but, c'est d'essayer de faire des raccourcis. Bon, alors donc, dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va donc faire du développement SharePoint. Alors, le développement SharePoint, il ne faut pas se leurrer, c'est une c'est une discipline à part entière. Développer sur SharePoint, c'est pas développer sur ASP.NET. Enfin, c'est pas que ça, quoi. Il y a une stack donc, là, que j'ai schématisée, hein, qui est riche, voilà, qui va au-delà de simplement le framework .NET. Donc on retrouve finalement tout ce dont on a parlé, les web parts, les workflows, le client object model, les solutions sandbox, etc. Plus après toutes les fonctionnalités, on va dire, prêtes à l'emploi qu'on peut orchestrer, mettre en œuvre dans une application. Donc nous avons nos amis de Patterns and Practices, que tout le monde connaît j'espère, qui a publié un guide complet destiné aux développeurs et architectes, Developing Applications for SharePoint 2010, qui rentre, alors j'ai leur petit
donc
schéma
là on peut cliquer là.
Là on peut cliquer là, et il y a un petit schéma synoptique qui est là, que j'en mettrai peut-être en texte, enfin là on va pas bien voir, hein. Mais qui globalement montre ce qu'ils abordent, donc les grands thèmes qu'ils abordent.
C'est la table des matières du document ça?
Oui,
d'accord.
Elle est aussi sous forme texte, hein, mais sinon c'est bien ça effectivement.
D'accord.
Donc, globalement, donc, au niveau interface client, comment je l'ai construit, etc. Parce que ça, c'est une grande problématique. Hein, encore une fois, le portail, l'ergonomie, c'est incontournable. Donc, les données, comment je crée donc, mes types de données, comment je les exploite, etc. Il y a des bonnes pratiques là-dedans. Hein. Les bonnes pratiques qui sont... pour moi, si vous lancez dans un développement SharePoint d'envergure, ce truc-là est obligatoire à lire. Quoi. C'est vraiment une lecture obligatoire.
Ouais, c'est le permis de développer dans SharePoint.
Ouais, il faut le lire. Ça ne suffit pas d'aller regarder la référence MSDN, c'est très bien, quoi, mais les bonnes pratiques, c'est vraiment particulièrement important dans SharePoint. Donc voilà, les environnements d'exécution, et puis les bonnes fondations de l'application. Alors là... comment bien packager, comment faire en sorte que le déploiement soit bien suivi, comment rendre votre application SharePoint testable. Tout ça, c'est des trucs, c'est pas à peine de les réinventer, parce que ça peut être assez complexe. Donc ce document-là est vraiment indispensable. Voilà, là, c'est pas bien placé, ça. Hein, ça devrait être ailleurs, mais je vais faire un petit point sur SharePoint et l'intégration, même si... quelque part on va reboucler en partie sur notre sujet BPM intégration, hein. Mais il se trouve que SharePoint embarque une technologie d'intégration qui est dans SharePoint, qui s'appelle BCS, donc Business Connectivity Services, qui permet de faire une intégration, alors soit on peut le prendre de différentes façons, soit une intégration légère, parce qu'on se dit voilà, c'est un peu quelque chose que je peux faire sans code, qui me permet d'intégrer de la data qui vient de multiples référentiels du reste du SI dans SharePoint facilement. Ou alors on peut le prendre comme une sorte de framework qui va permettre de créer des entités métiers composites et puis de développer des applications assez puissantes dans SharePoint. Bon, ça, c'est un sujet assez riche que je recollerai plutôt dans se connecter ou connecter SharePoint au reste du SI. Et donc, par contre, plutôt en revenant sur le sujet développement, deuxième gros sujet, comment organiser le cycle de vie d'une application SharePoint 2010. Donc globalement, comment gérer le code source, gérer les environnements de développement, test, intégration, comment packager la solution. Là aussi, sujet assez riche et puis sur lequel, sur une application, c'est comme toujours, hein, sur une petite application, pas forcément déclencher tout de suite les gros process, mais sur une application un peu significative, c'est quand même une lecture assez indispensable. Donc si vous demandez comment je fais en sorte que de bien gérer mon développement SharePoint dans TFS 2010, dans Visual Studio, etc. Le ALM Resource Center SharePoint 2010 est incontournable.
Parce que ça s'intègre bien maintenant, SharePoint
et Visual Studio. Encore une fois, c'est riche, il y a plein de concepts qui sont spécifiques à SharePoint. Il y a les solution packages, les features, le déploiement en soi, la gestion de la totalité des ressources dans le source control, tout ça, ce sont des sujets qui... Bah c'est bien de le lire plutôt que d'essayer de le redécouvrir soi-même, encore une fois. Donc, faut profiter du fait que voilà, depuis SharePoint 2007, il y a du chemin qui s'est fait, il y a beaucoup de retours d'expérience. 2010 a beaucoup progressé dans son intégration avec Visual Studio. Alors, il faut en profiter, et donc cette ressource-là vous mettra sur la bonne voie.
D'accord.
Voilà, et puis dernier point, tout ça c'est bien, mais faut le construire, SharePoint. Hein, concrètement, il faut l'installer, et SharePoint n'est pas... Même si on peut l'installer en trois clics sur un environnement de développement, quand on part en production, il y a deux, trois questions à se poser avant.
Entre les deux suivants, de suivant terminé, il y a des choses.
Voilà, il y a deux, trois questions à se poser. Donc on a là aussi, alors là, on bascule plutôt sur la partie TechNet. Hein. Donc planification, architecture, là, on est sur l'architecture physique, technique, hein, les serveurs, etc. Mais ça peut avoir un impact non négligeable sur l'application. Hein, faut faire un peu.
Oui, les fermes web, comment est-ce
donc,
que
voilà,
tous
donc,
ces éléments-là.
En gros, il y a deux grands composants. Il y a le frontal web, donc, sur lequel s'exécute l'application SharePoint. Et puis on a les services partagés. D'accord, donc SharePoint utilise un certain nombre de services. Par défaut, on peut tous les centraliser sur une machine, etc. Et puis sur des gros déploiements, on va en sortir quelques-uns, par exemple le moteur de recherche, peut-être la base de profil, peut-être Excel Services, etc. Donc on va peut-être sortir des choses. Donc plus l'architecture est distribuée, plus bon, bah, il faut réfléchir à l'avance. Et potentiellement, ça peut impacter l'application. Enfin, ça peut aller dans les deux sens hein, aussi, bien sûr. Une application peut impacter l'architecture physique. Mais donc c'est une bonne lecture, enfin une saine lecture pour un architecte qui voudra avoir une vue un peu d'ensemble. Technique sur SharePoint, et notamment on a une bibliothèque de diagrammes visio qui est très utile parce que elle vous fait, c'est une sorte de catalogue de topologie type. Donc souvent on nous pose la question, alors oui, je veux faire un extranet, je veux faire un internet, ou je veux faire un portail dans lequel il y a une partie extranet, le reste il est intranet, comment je fais? ça tourne pas mal autour de ces sujets, mais ça peut être aussi, voilà, je viens de faire une ferme qui va monter fortement en charge pour mon site internet. Il y a plein de questions comme ça qui sont auxquelles on répond par des architectures types. Et on les trouve là. Donc ça, c'est une référence, c'est pas des exemples comme ça, ce sont des architectures types qui ont été testées, modélisées, etc. Donc ce sont les meilleurs points de départ. Alors le diagramme visio, ils sont très riches, hein, c'est-à-dire qu'ils font la taille du tableau à peu près là, hein, donc ça prend un petit moment à digérer. Mais c'est une excellente référence pour, on va dire, partir sur quelque chose de prouvé au niveau d'architecture physique et
d'époque. D'accord, donc ça c'est quand on n'utilise pas SharePoint Online. Hein.
Oui, c'est quand on est chez soi plutôt.
Voilà, ouais, d'accord.
Voilà pour
cette
première vue d'ensemble. Donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations et ressources sur architect.archims.fr. Donc les slides, les liens vers les vidéos, l'audio, etc.
architech.archims.fr.
C'est ça, absolument. Donc, merci beaucoup.
Et à la prochaine fois.
Et à la prochaine fois.